France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, retrouvez le meilleur des émissions et de l'info et donnez votre avis.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
Il est 19h. Le journal. Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. Passage de témoin à Athènes, la flamme olympique des mains de la Grèce à la France. La cérémonie a lieu en ce moment. Nous sommes sur place. Que diront les agences de notation de la dette française? Réponse dans la soirée, mais on peut déjà vous dire quelles en sera les conséquences. L'actualité, c'est encore 3-4 choléra autochtones identifiés à Mayotte. Le chef de la diplomatie américaine est en Chine pour la deuxième fois en un an. Et puis nous serons au printemps de Bourges pour écouter Mathias Malzieu, chanteur de Dionysos. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, une question. Qui a déménagé et pour aller où depuis le Covid? La Fondation Jean Jaurès vient de publier une note qui montre, carte à l'appui, que la course à la mer s'est poursuivie ainsi que l'étalement urbain. La tendance était déjà largement amorcée. Elle s'est poursuivie à la faveur des dessertes ferroviaires et du télétravail. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont déménagé depuis la pandémie, n'hésitez pas à nous appeler. Même chose si vous avez dû y renoncer et si vous rêvez toujours de changer de vie. 01 45 24 7
France Inter.
La Grèce a donc passé le relais. La flamme olympique est désormais française. 10 jours après son départ du site antique grec d'Olympie, elle est arrivée à Athènes aujourd'hui dans le stade panathénaïque mythique, celui qui a accueilli les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896. Bonsoir Jérôme Val, c'est là que vous vous trouvez.
Bonsoir Hélène. Oui, exactement, dans ce stade qui est en train de se vider parce que la cérémonie de passation est terminée. Et effectivement, depuis 25 minutes maintenant, la France a récupéré cette flamme olympique après cette cérémonie qui a respecté à la lettre, on va dire, la longue tradition olympique avec des danses, avec le défilé aussi des grandes prêtresses, avec les derniers relayeurs qui sont entrés dans ce stade. Et donc, le passage de témoin entre Tsipras Kapralos, qui est le président du comité olympique grec, et Tony Estanguet qui a récupéré cette flamme avec une torche, et tout de suite après on a allumé une petite lanterne qui va maintenir cette flamme originelle. Cette petite lanterne va prendre demain la direction du Pirée, du port du Pirée, pour embarquer sur le Bélème pour une longue traversée de 12 jours à travers la Méditerranée jusqu'à Marseille.
Et la petite surprise qu'on n'attendait pas, c'est que le comité olympique a révélé le nom du premier relayeur sur le territoire français à la descente du Bélème. Le 8 mai prochain, ce sera Florent Manaudou, Jérôme.
Oui, effectivement, surprise du chef. On pensait que le nom de ce premier relayeur allait être gardé secret vraiment jusqu'au dernier moment. Oui. Eh bien non, effectivement, Tony Estanguet a annoncé que ce serait Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique. Et puis, quel nom aussi, puisque Laure Manaudou était, il y a une dizaine de jours, la première relayeuse française, la sœur aînée de Florent Manaudou. Donc vraiment, les Manaudou à l'honneur. Manaudou, qui est une figure aussi du sport marseillais et du sport français, tout à fait logique. Donc de le voir dans le 8 mai maintenant descendre du Bélème avec la torche sur le sol français pour un long périple de la flamme.
Jérôme Val en direct de Grèce. Quelques 150 000 personnes sont attendues à Marseille le 8 mai prochain pour accueillir la flamme sur le vieux port, et le dispositif de sécurité est conséquent. Près de 6 000 policiers et gendarmes mobilisés, des unités d'élite anti-drones ainsi que des moyens sous-marins et nautiques.
La décision est attendue, mais faut-il la craindre?
Les agences de notation Moody's and Fitch diront ce soir si elles dégradent ou non la note de la dette souveraine de la France. Le gouvernement s'y attend, lui qui vient de relever ses prévisions de déficit pour 2024. La dette française est désormais 22 points de PIB au-dessus de la moyenne de la zone euro, mais le gouvernement minimise les conséquences d'une éventuelle dégradation. Bonsoir Agnès Soubiran.
Ah, bonsoir.
Pour bien comprendre avec vous, à qui appartient la dette française d'abord?
Alors, pour schématiser, un quart de la dette française est détenue par la Banque de France, un autre petit quart par des résidents français, cela peut être des compagnies d'assurance ou des établissements de crédit, ce qui veut donc dire qu'un peu moins de la moitié de la dette française est détenue par des acteurs français, et donc un peu plus de la moitié par des acteurs étrangers, un quart par des résidents de la zone euro et un dernier quart par des résidents dans le reste de l'Europe, en Amérique et en Asie. On retrouve ainsi des titres de la dette française dans des portefeuilles de fonds de pension, actions, de banques centrales, de banques de crédit, dans des produits d'épargne à long terme, des assurances-vie et des obligations. Mais tout cela est très volatile car ce sont plus de 10 milliards d'euros de titres de la dette française qui sont échangés chaque jour sur les marchés.
Et est-ce qu'ils se détourneraient de la dette française en cas de dégradation ?
Alors non, si la dette française attire les investisseurs étrangers, c'est bien un signe de confiance des marchés internationaux. Les problèmes viendront lorsque les créanciers se mettront à avoir peur de ne plus être remboursés, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et même si la note de la France est ce soir dégradée, la crédibilité de la France ne sera pas remise en cause à court terme, estime l'OFCE. Et d'ailleurs, on n'a pas observé ces derniers jours de remous particuliers sur les marchés, alors qu'une dégradation est bien possible ce soir.
Et après, ce soir restera une troisième agence à se prononcer, Standard & Poor's. Ce sera le 31 mai prochain. Ce n'est pas une question d'émotion, mais d'affaires. Le PDG de Total Energy pourrait bien déserter la Bourse de Paris au profit de Wall Street. C'est ce que dit Patrick Pouyanné à l'agence Bloomberg aujourd'hui, parce que les actionnaires américains achètent plus que les Européens et parce que les États-Unis sont moins critiques sur la stratégie du groupe qui finance une partie de sa transition bas carbone en continuant d'investir dans les énergies fossiles. Les magasins Monoprix mobilisés aujourd'hui un peu partout en France, à Bordeaux, Lyon, Arras, en région parisienne aussi beaucoup, eux qui ont échappé à l'opération détricotage du groupe Casino, ne sont pas rassurés pour autant face à un sous-effectif chronique, des conditions de travail dégradées et parce qu'on vient de leur confirmer qu'ils n'auront droit à aucune prime d'intéressement pour 2023. C'est une première depuis de nombreuses années. Appel à la grève et au débrayage donc de la CFDT et de la CGT. Thomas Bonnet devant le magasin de Nation dans le 20e arrondissement de Paris. Plus de la moitié des salariés y étaient en grève.
Sifflée en bouche et pancarte à la main, Soukaina est en colère. Elle se dit bousillée par son travail.
Je portais des charges de 400 kilos. Maintenant, je suis à mi-temps thérapeutique avec des problèmes de dos.
En 33 ans d'entreprise, la chargée de rayon a vu la gestion des équipes changer du tout au tout.
C'est de pire en pire. Je me sens pas bien. Avant, les chefs qui étaient là, ils étaient beaucoup plus humains. Maintenant, ces gens-là, ils n'ont pas de cœur.
Vous savez pourquoi on est là ?
Oui !
Sylvain est caissière. Elle craint de voir le groupe Casino éponger ses dettes grâce aux résultats de Monoprix.
Casino nous considère comme leur vache à lait. On est là que pour éponger leurs dettes. J'ai l'impression qu'on n'existe pas. On est là que pour travailler, éponger.
Alain de Samas, représentant du personnel à la CGT, partage le même constat.
Ça nous a été posé. Estimez-vous heureux qu'il y ait un repreneur. Mais à quel prix ?
Celui de la prime d'intéressement, de la hausse des salaires et même du gel des embauches, selon le syndicaliste.
On demande aux salariés d'aller faire la cramerie, les postes vacants, charcuterie. En fait, on devient des pions.
Contacté sur le non-versement de la prime d'intéressement, la direction de Monoprix explique ne faire qu'appliquer la loi.
Un reportage Thomas Bonnet. Un triste record. Le cap du million d'interventions pour impayés a été franchi sur les factures d'énergie et plus d'un quart a donné lieu à des coupures. Ce sont les chiffres du médiateur de l'énergie et il n'étonne pas la Fondation Abbé Pierre et le directeur de ses études, Manuel Domergue, au téléphone de Robin Schmitt.
C'est pas du tout une surprise, on s'attendait à des chiffres extrêmement négatifs. Il y avait déjà une augmentation depuis 2020 et on battait des records chaque année depuis parce que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté et pendant ce temps-là, en 2021, on a eu 500 000 pauvres de plus par rapport à 2020. Les gens ont du mal à payer leur loyer, à payer leurs factures d'alimentation et donc d'énergie. Il y a quand même quelque chose à nuancer, c'est qu'il y a plus de réduction de puissance, mais un peu moins de coupure d'électricité parce que EDF, à la demande de la Fondation Abbé Pierre, a arrêté de couper ses clients. Donc nous, c'est ça notre proposition, mais on veut l'inscrire dans la loi parce que c'est pas normal que ça repose sur le volontarisme ou pas de votre fournisseur d'électricité, les clients de Total ou d'Engie. Il n'y a pas de raison qu'eux soient coupés alors que les clients d'EDF ne le sont pas. Donc c'est une demande qu'on a auprès du gouvernement de longue date. La réduction de puissance, ça limite quand même la dureté de la sanction avec la capacité à avoir un frigo, de l'électricité, voilà, des choses de base.
Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre avec Robin Schmitt.
En plein débat parlementaire sur la fin de vie, Emmanuel Macron face à la Convention citoyenne.
Celle qui lui avait fait des propositions il y a un an qui s'est prononcé pour une aide active à mourir. Un an après, dernière session aujourd'hui devant le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Maxence Lambrecq, vous y êtes. Le chef de l'État est venu leur dire qu'il avait tenu sa promesse.
Oui, tourner définitivement la page de la Convention climat montrait que cette fois, tous ces échanges, ces 9 sessions de travail à 184 ont porté du fruit. Qu'un texte de loi est bien là et en grande partie fidèle au rapport final. L'histoire n'est donc pas terminée.
Une troisième convention sera bien lancée prochainement, à vocation d'aboutir d'ici la fin du quinquennat, que nous établirons en lien avec le CESE le thème dans les prochains mois et qu'elle sera lancée avant la fin de l'année.
Les idées ne manqueront sans doute pas. Le président du CESE en a déjà d'ailleurs en tête. Emmanuel Macron trouve que sur la fin de vie, cette convention citoyenne est un facteur d'apaisement pour la société.
Ça permet de sortir, ce qui est dans notre démocratie parfois un problème, d'un débat qui est réservé aux experts ou qui ensuite va passer dans un débat parlementaire mais qui est tout de suite politique. Là, c'est un débat citoyen éclairé et cette prédécision, c'est une étape qui permet de créer du consensus et qui permet à coup sûr d'éclairer et de teinter ensuite la décision et le vote.
Le chef de l'État précise une nouvelle fois que le texte qu'il propose va maintenant évoluer au gré des débats parlementaires au fil des mois. Il l'avait annoncé dès le départ et répond désormais aux questions des citoyens.
Maxence Lambrecq, une étude de Santé publique France dit l'efficacité du traitement Beyfortus aujourd'hui contre les formes graves de la bronchiolite chez les bébés. Un quart des hospitalisations a été évitée depuis l'automne dernier. 5800 hospitalisations précises. Précisément, les autorités sanitaires annoncent par ailleurs une vaccination obligatoire contre la méningite élargie à partir du début de l'année prochaine. Un seul vaccin ciblera désormais les méningocoques A, B, W et Y qui se développent. Tandis qu'à Mayotte, c'est le choléra qui inquiète. 3 premiers cas autochtones viennent d'être identifiés et l'Agence régionale de santé prend la situation très au sérieux, Julien Penaud.
20 médecins et infirmiers arriveront demain en renfort à Mayotte pour juguler au plus vite la maladie dans un département qui souffre d'un manque criant d'eau potable, d'habitations insalubres et une forte promiscuité, ce qui risque de faciliter la propagation de ces cas de choléra. Des contaminations dont l'origine vient d'un patient qui ne s'est visiblement pas signalé à l'Agence régionale de santé, son directeur Olivier Brahic.
En synthèse, il n'y a pas d'épidémie de choléra à Mayotte. On a un signal dans une zone localisée où il y a un début de circulation de la bactérie. Et donc, nous, les autorités sanitaires, on est là pour étouffer très rapidement ce premier foyer et donc d'avoir une opération coup de poing.
Et cela passe par une vaccination de masse, atteindre les 4 à 5 000 personnes d'ici la semaine prochaine, une campagne de dépistage aussi, ainsi que des préconisations pour la population.
Se laver très régulièrement les mains et boire de l'eau potable.
Sachant que l'accès à l'eau potable est problématique sur l'île.
C'est la raison pour laquelle on distribue des kits d'hygiène, du savon, des pastilles de chloration d'eau, de la distribution d'eau embouteillée.
Et une unité choléra vient également d'être mise en place au centre hospitalier de Mayotte avec une capacité de 14 lits. 40 de plus seront réquisitionnés si nécessaire.
Le roi Charles va reprendre ses activités publiques dès mardi. L'évolution de son cancer jugée encourageante ce soir par les médecins. Il a choisi mardi de se rendre dans un centre de lutte contre la maladie. Entre des tente est mise en garde. La rencontre aujourd'hui entre le chef de la diplomatie américaine et le président chinois en Chine. C'est la deuxième visite d'Anthony Blinken dans le pays en moins d'un an. Xi Jinping appelle les États-Unis à être des partenaires, pas des rivaux, même si les sujets de tension entre les deux puissances sont nombreux. Nathanaël Charbonnier.
Russie, Taïwan, le trafic de fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis et qui provient essentiellement de Chine, mais on pourrait ajouter la lutte d'influence dans le Pacifique, les condamnations américaines sur le Tibet ou encore dernièrement la méfiance autour de la fameuse application TikTok soupçonnée d'être utilisée par Pékin pour espionner les téléphones américains. Bref, la liste de différends susceptibles de tendre les relations entre les deux géants est longue, et pourtant c'est avec des propos plutôt chaleureux que le président chinois a accueilli le secrétaire d'État américain. Il a déclaré que des progrès avaient été réalisés depuis sa rencontre avec Joe Biden, le président américain. Il a aussi expliqué que les deux pays devaient être des partenaires plutôt que des rivaux. partenaires peut-être, mais Anthony Blinken a rappelé aux autorités chinoises les dossiers sur lesquels les Américains sont sensibles. Ils concernent l'aide chinoise à la Russie qui complique la situation en Ukraine pour les Occidentaux. Ils concernent aussi l'influence de la Chine en Iran et les conséquences que cela peut avoir sur le conflit au Proche-Orient. Ils concernent encore Taïwan avec le bras de fer que les deux pays ont sur l'île de 23 millions d'habitants revendiquée par Pékin.
En Ukraine, la mairie de Kiev évacue en urgence deux hôpitaux de la ville craignant des frappes russes. La Russie qui a déjà intensifié ses bombardements sur le réseau ferroviaire aujourd'hui pour paralyser les approvisionnements militaires. Et puis en bref, encore à Gaza, l'ONU estime à 37 millions de tonnes la masse des débris et gravats à déblayer le territoire soumis à un pilonnage intensif depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas. En France, ce sont les locaux historiques de Sciences Po à Paris qui sont occupés depuis ce matin par des étudiants pour défendre la cause palestinienne. La rue Saint-Guillaume, juste devant, occupée également. Le préfet veut la faire évacuer. Les forces de l'ordre sont sur place.
Il est 19h15 sur France Inter. Vous écoutez le journal d'Hélène Fillet et vous avez bien raison. Le site de rencontre Coco, une nouvelle fois mis en cause.
Deux semaines après la mort de Philippe Kopmann à Grande-Synthe, victime d'un guet-apens après un échange sur ce site. Alors qu'un procès se tient en ce moment à Valenciennes, 11 hommes jugés pour avoir eu des relations parfois tarifées avec une adolescente de 14 ans. Le premier contact noué sur ce même site. Et l'on apprend aujourd'hui que 4 hommes ont été arrêtés, placés en détention provisoire. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Pour 3 agressions. Et là encore, tout commence sur le site Coco.
Un rendez-vous donné sur le chat et finalement un guet-apens, carte bancaire dérobée, code obtenu par la violence, argent volé. 3 agressions sur 3 jours. C'était à la mi-mars. Après plus d'un mois d'enquête, donc 2 mineurs de 16 et 17 ans et 2 majeurs de 22 et 28 ans ont été interpellés cette semaine. Dans cette affaire qui, précise la procureure de Dunkerque, n'a pas de lien avec le meurtre de Philippe Kopmann. Le site de chat Coco est loin d'être inconnu des enquêtes et des procédures judiciaires. De nombreux guet-apens homophobes y sont organisés et des pédocriminels y sévissent, déplorent plusieurs associations. En 2018, un homme a été tué dans le Val-d'Oise après une rencontre initiée sur Coco. Et c'est aussi sur ce site qu'un mari a proposé pendant 10 ans à des hommes de venir violer son épouse qu'il droguait à son insu. Le procès se tient à la fin de l'année. Alors pourquoi Coco, créé en 2005, est toujours actif? Car le site n'est plus hébergé en France, mais à Guernesey, coco.gg, et appartient aujourd'hui à une société immatriculée en Bulgarie. Le propriétaire serait, selon nos confrères du Monde, un discret ingénieur installé dans le Var.
Delphine Evenou, le youtubeur d'extrême droite Papacito échappe à la prison avec sursis, mais écope d'une amende de 5000 euros, condamné pour injures homophobes et incitation à la violence contre un maire d'un petit village du sud-ouest à cause d'un conflit de voisinage. Il devra aussi verser 1000 euros de dommages et intérêts à chacune des 3 associations de lutte contre l'homophobie qui s'étaient portées partie civile au procès. Prenez votre mal en patience dans l'Est. La circulation sur l'ensemble de la ligne à grande vitesse entre Paris, l'Est de la France et l'Allemagne est interrompue à cause d'une rupture de caténaire. C'est arrivé à midi et le problème n'est toujours pas réglé. Les trains sont obligés d'emprunter un itinéraire plus lent. Et comme promis, direction Bourges, c'est le choix culture de ce journal, le printemps de Bourges jusqu'à dimanche, parce qu'à côté des têtes d'affiche, le festival met en valeur la poésie et les lectures musicales. C'était le cas cet après-midi avec Mathias Malzieux, le chanteur de Dionysos. Mathieu Culeron y était.
Sur Édimbourg, en ce 16 avril 1874.
C'est dans les combles du palais Jacques Cœur que Mathias Malzieux est venu présenter finalement l'ensemble de son œuvre, des chansons bien sûr, mais aussi des passages de ses livres accompagnés par certains musiciens de son groupe Dionysos.
À chaque fois, voilà, on commence avec une histoire et une chanson, et ensuite on fait le petit tirage au sort, on va dans les gens avec des petits papiers, nous on a bossé plusieurs possibilités, selon ce qui tire, ben, admettons, il tire une sirène à Paris, et ben, je lis un bout du début du livre, et une chanson attenante, surprise à chaque fois. Donc ça fait les petits liens comme ça, mais on en a répété plein avec Mike hier chez moi, et on ne sait pas ce qu'on va jouer ce soir du coup.
Mathias Malzieux qui arrive en béquille pour ses lectures chantées, le chanteur de Dionysos qui s'est cassé la jambe sur le premier morceau, du premier concert de sa tournée, et encore une fois, il en sortira plus fort.
Ça ne veut pas dire que je vais être dans le déni, que je vais jouer au héros. Oh, moi, me casser la jambe, c'est pas grave du tout, il n'y a aucun souci, c'est tellement fun. Pas du tout. J'en ai bavé. Et c'est pas encore tout à fait simple. Loin de là. Mais en fait, il y avait vraiment une autre façon de faire. Enfin, tu crées autre chose.
Dans ce lieu majestueux qu'est le Palais Jacques Cœur, la création de Mathias Malzieu au Printemps de Bourges prend tout son sens. Le chanteur de Dionysos aura embarqué tout le monde dans son univers onirique, facétieux et toujours bienveillant.
Le Printemps de Bourges à vivre aussi en direct ce soir sur notre antenne à partir de 20h avec Laurent Goumard.
Ah, voilà, ça sera après le téléphone sonne et après le flash de 20h. C'était le journal d'Hélène Fini. Merci beaucoup Hélène. Bon week-end. Des nouvelles du temps maintenant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Beaucoup de pluie et d'averses sur l'ouest.
Oui, dès le matin, des averses vont se développer entre la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et l'Orléanais et des pluies vont s'installer sur les Cévennes. Progressivement, les conditions vont se dégrader encore un peu plus. Les pluies persisteront sur le relief du Languedoc et les averses vont devenir parfois fortes, orageuses en s'accompagnant de grêles. Prudence notamment entre le Limousin, la Gironde et le Poitou-Charentes demain après-midi. Sur le reste du pays, seules quelques averses pourront se faire remarquer malgré des nuages omniprésents. Les éclaircies se montreront plus franches près des frontières de l'Est, en Corse et sur le Finistère. Et puis les températures seront en hausse. L'après-midi, il fera 16 à 21 degrés en général, jusqu'à 23 degrés en Corse, mais 13 à 17 degrés sur le quart nord-ouest. Et puis à noter aussi beaucoup de vent en Occitanie et sur le Massif central, avec des pointes à plus de 100 km/h possibles vers le midi toulousain et en Auvergne.
Un petit mot pour dimanche ?
Eh bien, l'axe fortement pluvieux va se décaler vers l'Est pour s'étendre entre l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et la Lorraine, en donnant des pluies soutenues toujours sur les Cévennes, mais aussi entre l'Auvergne et la Bourgogne. Près des frontières de l'Est, la journée sera d'averses. Et puis sur une large moitié ouest, les averses seront plus localisées. Les éclaircies seront aussi plus nettes, notamment entre l'Aquitaine, la Bretagne et la Normandie. Mais c'est en Corse que le soleil sera le plus généreux, ce qui permettra au mercure de grimper jusqu'à 26 degrés à Ajaccio. Sur l'Hexagone, prévoyez 13 à 20 degrés du nord-ouest au sud-est pour dimanche après-midi.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.
Demain sur France Inter, la patronne de Veolia, dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
Question sur l'accès à l'eau, sa qualité, son prix, et puis sur cette école de la transformation écologique que vient de lancer le géant mondial, Estelle Brachlianoff est mon invitée.
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
Avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
Il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, qui a déménagé et pour aller où depuis le Covid ? La Fondation Jean Jaurès s'est penchée sur la question. Elle vient de publier une note qui montre que l'attrait du littoral s'est confirmé depuis 4 ans, surtout sur la façade atlantique. Même mouvement en direction des zones périurbaines autour des métropoles à la faveur des mutations observées pendant la crise sanitaire. Télétravail, soif de grand air, besoin de jardin, mais aussi recherche de dessertes ferroviaires, si possible, à grande vitesse. Cela dit, tout le monde n'a pas eu la possibilité de réaliser son rêve ou de déménager. Question de moyens, avec toujours le problème crucial du logement et du manque de terrain disponible. Tout cela avec des conséquences pour ceux qui partent, mais aussi pour ceux qui voient arriver les nouveaux venus. Alors ce soir, plus que jamais, on attend vos témoignages. Dites-nous si vous avez déménagé, songez à le faire ou renoncez. Si oui, pour quelles raisons ? Avec nous pour en parler, plusieurs invités que je vous présente. Bonsoir Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP. Vous êtes l'auteur avec Sylvain Manternac de cette fameuse note de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes également l'auteur de La France d'après, tableau politique. C'est au seuil. Isabelle Cabla-Langlois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice régionale de l'INSEE Île-de-France. Vous nous direz que vous avez vu peut-être vous partir des habitants. On verra ça dans un instant. Bonsoir Xavier Desjardins.
Bonsoir.
Professeur de géographie à Sorbonne Université. Vous enseignez l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Vous êtes l'auteur avec David Jaïs de La Révolution obligée chez Alary. Pour participer à ce téléphone sonne, le numéro n'a pas changé. 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, direction Poitiers pour commencer. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Paul, une petite voix de quel âge ?
J'ai 12 ans.
Alors, bonsoir Paul, 12 ans. Paul, as-tu déménagé ? Je me permets de te tutoyer ?
Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, c'est le confinement a commencé quand j'avais 7 ans, donc j'étais très jeune. Et en fait, on vivait avec ma famille dans un petit appartement en centre-ville. On s'y sentait très bien. C'était un endroit très agréable. Et puis moi, depuis que je suis tout petit, c'est toujours le cas, j'ai toujours vraiment aimé pouvoir me balader, mais aussi avoir des projets. J'étais déléguée dans mon école, j'aimais bien aller en cours, rencontrer des gens. Et c'est vrai qu'avec le confinement, en fait, toutes les activités que j'avais, je pouvais plus les faire parce qu'on était enfermés chez nous. Et le problème, c'est que j'étais quand même dans un petit espace. Et en fait, l'espace que j'avais a fini par rentrer dans la tête parce que c'était un tout petit espace. Et je me sentais plus vraiment bien dans cet appartement. Et donc, j'ai parlé à mes parents de l'idée de déménager soit à la campagne, soit un petit peu plus loin du centre-ville. Et en même temps, pour mes parents, ils étaient dans la même situation. Ils avaient envie de déménager. Le problème, c'est qu'ils étaient attachés à l'appartement parce qu'en fait, il y avait toute l'organisation familiale dans le quartier, parce qu'il y avait les magasins pour faire les courses, il y avait l'école qui était en face, et c'était pas forcément très pratique, mais on a quand même regardé les annonces, et je pense que là, j'ai quand même contribué au fait qu'on ait déménagé avec mes parents, parce qu'on a finalement déménagé un petit peu plus loin du centre-ville, dans une maison plus spacieuse, avec jardin, etc. Et maintenant, je m'y sens vraiment beaucoup mieux parce que j'ai une chambre plus grande, j'ai un jardin avec rivière, je peux inviter des gens. Et même si l'inconvénient, c'est qu'on nous a un peu éloignés du centre-ville et donc de quelques activités qui étaient agréables à faire, c'est vrai que franchement, c'est beaucoup plus agréable d'avoir cet espace pour soi. Et là, vraiment, j'ai la place d'avoir une chambre, par exemple, où je mets vraiment les choses que j'aime. Et ça, c'est vraiment agréable.
Eh ben, tu vas nous faire envie, hein, Paul. Hein. Franchement, un jardin avec rivière. Là, je pense que parmi les auditeurs de France Inter, il y en a un certain nombre qui vont être un peu jaloux ce soir. En tout cas, Paul, bravo pour avoir convaincu tes parents, même si je crois comprendre qu'ils se sont laissés facilement convaincre parce qu'ils devaient l'être aussi, eux. Merci, Paul. Tu voulais rajouter un mot ou je peux t'abandonner ?
Non, c'est bon, merci beaucoup.
Merci mille fois à toi, Paul, pour ce témoignage. Ben voilà, on n'a pas besoin d'être adulte pour avoir envie de changer de vie. Jérôme Fourquet, comment vous réagissez quand vous l'écoutez ?
Mais je pense que Paul, du haut de ses 12 ans, a résumé pas mal des phénomènes qu'on a vus à l'œuvre, à savoir le fait que toute une partie de la population à bouger du cœur des grands centres urbains vers leur périphérie, pas forcément très, très lointaine, comme nous dit Paul, avec le Covid et les confinements qui ont généré pas mal d'envie, peut-être aussi de frustration chez certains, et qui a poussé à aller chercher plus d'espace. Ça a été très bien dit, une chambre pour chacun des enfants, un bout de jardin.
Avec rivière.
Alors, la rivière, là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais, et donc ça, à budget constant, eh bien, pour trouver plus d'espace, il faut aller un peu plus loin, parfois beaucoup, significativement plus loin, du cœur de la ville. Et c'est ce qu'on constate sur les cartes, sur les données. C'est-à-dire qu'on voit des gains de population sur toutes les couronnes, première, deuxième couronne, de la plupart des grandes métropoles françaises. Donc ça, c'est une des tendances fortes.
Est-ce qu'on sait mesurer le pourcentage de personnes qui ont déménagé depuis la crise sanitaire ? Peut-être vous, Isabelle Cabla-Langlois, à l'INSEE, vous avez pu mesurer ça ?
Alors, il existe plusieurs types de données qui nous permettent de mesurer les évolutions des populations et les flux migratoires. Alors, évidemment, au premier rang desquels, le recensement de la population. Il y a eu une étude qui est parue à partir de l'enquête de recensement qui interrogeait les personnes au 1er janvier 2022 pour regarder les déménagements qui avaient eu lieu en 2021. Et pouvoir ensuite les comparer à ce qui se passait avant la crise. On a bien en tête que 2021, on est au cœur de la crise du Covid. Eh bien, effectivement, on voit des évolutions assez sensibles dans ces déménagements, avec les phénomènes que Monsieur Fourquet décrivait. L'une des choses qui est vraiment notable, c'est ce qui se passe au niveau de la région parisienne. On a vu effectivement un accroissement sensible des départs d'Île-de-France vers la province, vers un ensemble de villes de province. On pourra détailler un peu plus tard, peut-être.
Bien sûr. On entendait que Paul a déménagé du centre de Poitiers vers la périphérie de Poitiers. Ça, Xavier Desjardins, est-ce que c'est un phénomène important par rapport à ceux qui ont pu changer de région ? Peut-être plus important même ?
C'est un phénomène qui est important. Et en fait, là, le Covid a servi d'accélérateur, puisqu'en fait, ça fait 5 décennies qu'il y a un mouvement de desserrement. Même avant, on pourrait dire, dès qu'il y a eu le chemin de fer, en fait, les gens se sont éloignés au 19e siècle. Puis évidemment, la voiture, ça a été un accélérateur d'étalement urbain. Et en fait, aujourd'hui, on a même... Et puis après, de nouveaux éléments aussi, le réfrigérateur, le congélateur, qui permettent de faire ses courses moins souvent, etc. Et puis aujourd'hui, le télétravail, qui permet aussi de ne pas aller tous les jours au lieu de travail. Donc c'est encore quelque chose qui permet de se mettre à distance. Et effectivement, c'est un mouvement d'accélération d'une tendance. Alors, ce qu'on verra peut-être en 2030, c'est si des gens ont réalisé plus vite... plus tôt, parce que souvent il y a des étapes dans des parcours de vie, assez généralement il y a des parcours et les gens beaucoup de ménages ont leur premier enfant en ville dense, etc. Puis déménagent au deuxième ou au troisième, etc. Et donc peut-être que là le Covid a eu un effet d'accélérateur sur des déménagements, puisque finalement la dynamique sociale que nous racontait Paul, c'est une dynamique qui préexistait au Covid, mais qui a permis de l'accélérer.
Alors, on va évidemment y revenir. On va repasser par le standard de France Inter. Bonsoir, Anita.
Bonsoir.
Vous êtes en Bourgogne, mais vous n'avez pas toujours été en Bourgogne.
Et non. Donc, je suis commerciale dans l'informatique. Je travaillais à l'époque à Paris, à La Défense. Et le jour du confinement, en fait, en Italie, ma mère, ça faisait déjà un mois qu'ils étaient confinés. Et le 16 mars, je me suis dit, bon... à Paris, ça va peut-être être un petit peu compliqué d'être enfermé. J'étais en colocation, on était 3 en plein centre et on avait une maison de famille un petit peu abandonnée, un peu reculée dans le parc naturel du Morvan, dans la Nièvre. Donc j'ai décidé, bon, je me suis dit, je vais faire une petite valise, ça va durer qu'un mois. Et puis au final, ça a duré 4 ans et je ne suis jamais retournée vivre à Paris. Je suis toujours en télétravail, donc mon job me le permet. Et jamais, pour rien au monde, je retournerai vivre en ville, en tout cas à Paris, où je reprendrai un travail dans un bureau. Quand on a goûté à la campagne et à la vie un petit peu plus lente, un peu plus saine, un peu plus tranquille, c'est très difficile de faire un pas en arrière. Et j'ai 29 ans et voilà, ça a été mon expérience.
Eh ben merci Anita, vive le télétravail si je comprends bien. Jérôme Fourquet, une première question. Elle est allée en Bourgogne. Alors moi, je regarde votre carte parce que vous avez fait une jolie carte sur
le Morvan.
Voilà, sur les déplacements de population. J'ai pas l'impression que le Morvan soit une destination privilégiée, si je me trompe.
Non. Alors il y a eu des flux, bien évidemment, mais quand on regarde les évolutions de population, typiquement le Morvan, c'est un endroit où on a une population locale qui est assez âgée. Et donc l'apport de nouveaux arrivants n'a pas été de nature à compenser la baisse de la démographie dans ces territoires, dans tout ce qu'on pourrait appeler un peu la diagonale du vide. Ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est que autant on a vu avec le témoignage de Paul comment le Covid avait produit un effet psychologique, l'enfermement, autant là le Covid a accéléré aussi une innovation technologique. Et sa diffusion dans toute la population, c'est le télétravail qui existe. Il était déjà possible de télétravailler, mais dans les entreprises, on regardait ça un peu d'un mauvais œil. Aujourd'hui, bien évidemment, toute la population française ne télétravaille pas. Il y a beaucoup d'emplois qui sont non télétravaillables. Mais d'après les données de l'IFOP, c'est 25% des salariés qui télétravaillent 2 jours ou plus par semaine.
Ça paraît énorme, hein.
Et ce qui est beaucoup. Et donc, télétravailler 2 jours ou plus... Alors là, la Nièvre, c'est loin de Paris, mais ça vous permet typiquement d'aller vous installer en très très grande périphérie, ce que vous n'auriez pas pu vous permettre de faire avant le Covid, parce qu'il fallait faire l'aller-retour pour le travail 5 fois par semaine. Là, vous ne l'avez plus à le faire que 2-3 fois par semaine pour un quart des salariés. Et en Ile-de-France, c'est 40% de salariés qui sont en télétravail 2 jours ou plus. La SNCF vient de publier une enquête qui montre que la fréquentation de ces trains, les fameux TER, trains express régionaux, a augmenté très significativement. Ils ont fait une étude sur le profil des nouveaux utilisateurs. Donc il y a certes des très jeunes, des scolaires et des étudiants, où là c'est l'effet de réduction avec des cartes d'abonnement, mais on a aussi une augmentation sur des cadres et des jeunes actifs qui sont typiquement des télétravailleurs et qui ont décidé d'aller s'installer plus loin que la ville-centre, et de prendre, par exemple, le train.
Le train, très important, Jérôme Fourquet, parce que Céline, qui est en Corrèze, a envie de nous parler du train, c'est bien ça? Bonsoir Céline.
Oui, bonsoir.
Alors, vous êtes allée vous installer en Corrèze ?
C'est ça, oui. Mon mari est corrézien et je suis périgourdine. Donc, après 7 ans je suis fonctionnaire. Donc, après 7 ans, j'ai enfin obtenu ma mutation et ça nous a permis de revenir vers chez nous.
Et alors, il y a un train ? Il y a ce qu'il faut ou pas ?
Eh bien, en fait, il y a un train, mais mon mari doit faire 40 minutes de voiture pour prendre le train pour se rendre à son travail. Ce qui nous embête un petit peu, ce qui nous chagrine, c'est qu'il existait une ligne de train qui permettait du coup de faire Limoges-Brive. Donc nous, on habite au centre, et donc ça aurait pu permettre à mon mari de ne pas du tout prendre la voiture, ce qui aurait été incroyable au niveau écologique et économique aussi. Et malheureusement, cette ligne de train n'existe plus. Donc je voulais aussi faire un petit coup de pub pour Bob Seale. C'est une association qui défend du coup la réinstauration, le fait
des que anciennes lignes.
Oui, c'est
la
ça.
La réouverture d'anciennes lignes de train.
Exactement, merci beaucoup. Du coup, ça nous permettrait d'avoir une ligne restaurée et voilà qui pourrait permettre à beaucoup de gens de l'emprunter. Elle passe par Saint-Thierry-la-Perche et malheureusement, elle n'existe plus depuis que elle était laissée à l'abandon et un pont s'est effondré.
Le message est passé, Céline. Merci beaucoup. En tout cas, on a compris une chose en vous écoutant, c'est que on peut partir pour des questions d'environnement, de travail. On peut partir pour des raisons conjugales aussi, hein, des rapprochements de famille. Qu'est-ce qu'on sait de ça, Xavier Desjardins, sur la les Français bougent beaucoup ou pas d'une manière générale?
Oui, les Français déménagent assez souvent. Je crois qu'il y en a 1 sur 9 qui déménage chaque année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de déménagements. Et effectivement, là, les gens nous parlent de déménagements lointains. Mais en fait, quand on déménage, les Français, ils déménagent quand même d'abord dans la proximité. Et j'ai regardé, j'ai vu que 60% des Français déménagent soit dans des villes de la même taille. C'est-à-dire, ils sont du rural, ils restent dans le rural, des petites villes, ils restent dans une petite ville, ville moyenne, ou voire dans la même ville moyenne. Donc, ils sont quand même plutôt stable, ces flux-là. Et ce qu'on voit, en fait, ce qu'on a vu avec le... Et vers les zones rurales, avant le Covid, c'était 17% des déménagements vers les zones rurales. Aujourd'hui, c'est 18 ou 19%. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus. En fait, c'est pas un changement. C'est le Covid, en fait, accélère des tendances qui étaient là. C'est pas un changement. Il n'y a pas d'exode urbain. Il y a des villes qui sont pas vides, etc., etc. Mais, c'est des tendances un petit peu plus favorables au rural, un petit peu plus favorables aux villes moyennes. Ça change pas forcément dans beaucoup d'endroits, comme dans le Morvan ou en Corrèze. Ça ne change pas fondamentalement les dynamiques démographiques. Parce que, les populations vieillissantes, etc. Mais ce que ça change, et le dernier témoignage le montre, c'est que ça change pour les sociétés locales, c'est important, puisque ces gens qui arrivent, ils arrivent avec leur métier, leur passion, leur envie de militer, là, par exemple, pour une voie de chemin de fer. Et donc, c'est peut-être des petits flux, mais qui peuvent être localement assez importants de recomposition, en fait, de la vie locale.
D'ailleurs, on voit des départements qui font de la pub pour attirer de nouveaux habitants. Hein. Ça existe aussi, Jérôme Fourquet, on le voit.
Oui, un grand marketing territorial. Et donc, on va peut-être, du coup, aborder la deuxième grande évolution après le desserrement et la volonté de gagner un peu en espace en quittant le cœur des villes. On voit aussi que la deuxième tendance a profité aux départements ou aux territoires, plus exactement, qui sont les plus attractifs touristiquement. Et donc, quand vous disiez que des départements font de la publicité, ils font à la fois de la publicité pour venir passer le week-end, et puis plus y affinité. Et donc, on voit que c'est déjà dans les territoires qui sont historiquement attractifs touristiquement, typiquement le littoral atlantique, par exemple, ou les départements du sud de la France, où il fait beau, que les dynamiques démographiques ont été amplifiées, et car, comme disait M. Desjardins, le Covid n'a fait qu'accélérer, accentuer des tendances qui étaient déjà préexistantes.
Alors, j'en profite pour signaler que cette jolie carte que vous avez pu produire, où on voit effectivement en jaune, orange et rouge les territoires qui ont accueilli de nouveaux habitants, et en bleu ceux qui en ont perdu, on peut la trouver sur le site de l'émission. Comme ça, on peut joindre la carte au reste de l'émission. Si je regarde bien cette carte, et là je me retourne vers vous, Isabelle Cabla-Langlois, concernant la région parisienne, c'est un peu contrasté. Il y a des parties de la région parisienne qui perdent des habitants, d'autres qui en gagnent. Comment ça se passe exactement ?
Alors, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Le cœur urbain tend à être moins attractif. Donc, on a sorti une étude récemment qui montre un vrai contraste entre ce qui se passait avant 2019 et depuis 2021. Avec un déficit migratoire pour la MGP, pour donner quelques chiffres peut-être pour les auditeurs.
C'est quoi la MGP ?
La métropole du Grand Paris. Veuillez m'excuser. Donc, typiquement, c'est Paris, la petite couronne. D'accord. Et un petit morceau de la grande couronne. Donc, en 2021, vous avez 49 700 ménages provinciaux qui sont venus s'installer dans la métropole du Grand Paris, donc Paris, petite couronne, 81 000 qui en sont partis. Si on se situe 10 ans plus tôt, on était quasiment à l'équilibre. On avait un petit déficit, mais on était presque à l'équilibre. Donc c'est vraiment là que se passe vraiment l'évolution, même si dans les chiffres que je vous ai donnés, il reste comparativement à l'ensemble des déménagements assez faible.
Le téléphone sonne.
Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Jérôme Fourquet de l'IFOP, Isabelle Cabla-Langlois de l'INSEE, Xavier Desjardins qui est professeur de géographie à la Sorbonne et qu'on parle de ceux qui ont déménagé depuis le Covid. On va partir en Bretagne. Bonsoir Delphine.
Oui, bonsoir.
Bretagne, bretonne d'avant ou d'après ?
Bretonne de toujours, ah. Une pure verre.
D'accord. On vous écoute Delphine.
Alors, je voulais témoigner par rapport à ma situation personnelle hein, qui nous amène à quitter la région Vannetaise pour nous rapprocher de la région Lorientaise. Donc, c'est pas très loin, hein, mais on voit bien en fait que le Covid, effectivement, a accéléré l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles personnes sur notre région et que l'attrait de la Bretagne se vérifie au quotidien, malheureusement faisant grimper les prix de l'immobilier pour les gens qui travaillent au quotidien sur ce secteur-là. Et puis aux difficultés que je tiens à signaler, qui est assez importante aussi sur le territoire, en tout cas morbihanais, autour des métropoles, enfin des grandes villes, parce qu'on n'est pas des métropoles, c'est le dimensionnement des infrastructures routières en fait qui pêche aujourd'hui chez nous.
Merci pour ce témoignage Delphine sur la grande transhumance entre de Vannes à Lorient. Jérôme Fourquet, ça dit quelque chose déjà du prix de l'immobilier. Les nouveaux venus font grimper les prix.
Oui, alors on était déjà sur cette zone littorale sur des prix qui étaient déjà les prix de l'immobilier qui étaient déjà conséquents, mais l'immobilier comme d'autres marchés répondent à la loi de l'offre et la demande. On peut pas construire de manière massive avec vue sur mer, et donc les constructions et les biens immobiliers qui sont à vendre ont vu leur prix grimper. Alors, il se trouve dans la note un graphique où on a l'augmentation des prix de l'immobilier entre 2019 et 2014 et 2024, excusez-moi. Et à Vannes, c'est plus 40%.
C'est énorme.
Et l'Armor-Plage, plus 40%, sachant qu'encore une fois, on partait pas de zéro déjà. Hein. C'était des endroits qui étaient chers. Alors, on retombe sur notre question du train, notamment avec Vannes. Et Lorient aussi, mais Vannes est desservie par la LGV qui vient de Rennes, mais surtout aussi de Paris. Et donc, on a une population extérieure à la Bretagne qui vient s'installer en télétravail, bénéficier de la qualité de vie très agréable du golfe du Morbihan, et donc fait grimper les prix parce qu'elle a un pouvoir d'achat immobilier qui est relativement conséquent. Et il y a un effet d'éviction au détriment de populations pur beurre, pour reprendre l'expression de l'auditrice, qui, s'ils veulent rester dans leur région, soit doivent reculer un peu, parfois beaucoup, dans l'intérieur des terres, soit aller plus loin vers l'ouest, sur la côte, et donc c'est la transhumance de Vannes vers l'Orient. L'Orient est aussi desservi par la LGV, mais touristiquement est moins prisé, et puis elle est plus loin sur la ligne. Donc on est en plein dans le phénomène qu'on décrit par les chiffres, et là on a un témoignage très vivant.
Voilà, et ça se retrouve tout le long du littoral, ou presque, hein. On a le souvenir d'émissions qu'on a pu faire, même sur Airbnb, hein, sur la difficulté qu'il y a à se loger jusqu'au Pays Basque. Ouais. Ça, c'est une réalité. On va avoir une question pour vous, Xavier Desjardins, on va la poser à Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste.
Oui, bonsoir. J'ai une question simple, deux questions simples. C'est de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'exode rural. Est-ce qu'en France, on a toujours cette volonté d'aller chercher du mieux vivre en ville ? Voilà.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. Où en sommes-nous de l'exode rural, Xavier Desjardins ?
C'est une bonne question. En fait, les campagnes aujourd'hui, elles sont extrêmement diversifiées. Il y a une époque, on parlait d'exode rural, parce qu'en fait, toutes les campagnes perdaient des habitants, sous l'effet principal, en fait, de la modernisation agricole. Et donc, on avait besoin de moins d'emplois dans le monde. Enfin, voilà, la paysannerie, c'était 50% des actifs en 1946. Aujourd'hui, c'est 3%. Donc, évidemment, ça a un impact considérable sur la démographie des zones rurales. Aujourd'hui, sur les zones rurales, en fait, c'est extrêmement contrasté, parce que, en fait, on a des zones rurales au nord, à l'est et dans les pourtours du bassin parisien, qui sont dans des dynamiques démographiques qui perdent des habitants encore et parfois de manière accentuée, et des zones rurales plutôt l'ouest, enfin une carte à la radio c'est pas évident, mais plutôt toute la façade atlantique rétro-littorale, on pourrait dire en gros toute la Bretagne quasiment sauf la Bretagne intérieure, les Pays de la Loire, une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et aussi les campagnes qui sont autour du pourtour méditerranéen, là gagnent les habitants. Donc aujourd'hui, on a, il n'y a plus de sujets finalement de rééquilibrage ville-campagne, même si c'est posé un jour. On est plutôt, je dirais, de gérer des dynamiques extrêmement contrastées entre les campagnes. Et d'ailleurs, après le Covid, effectivement, des campagnes ont gagné, mais c'est très sélectif. Il y en a qui ont beaucoup gagné et d'autres qui, d'une certaine manière, ont à peine, le mouvement les a à peine effleurés parce que moins bien desservis par le train, parce que avec des paysages peut-être moins attractifs. Il y a aussi des effets un peu de mode et puis de climat, parce que c'est vrai que quand on va chercher, si on veut un jardin, on va en profiter beaucoup de jours dans l'année. Et donc, il y a certaines régions qui sont plus favorables que d'autres pour ce genre de pratiques.
Alors après, il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Il y a le travail, on en a parlé, les infrastructures ferroviaires, routières. Puis, j'imagine la question de la santé. Alors là, il y a une carte dans votre note, Jérôme Fourquet. Vous l'avez chopée à l'Ordre des médecins, cette carte, mais elle est impressionnante, la carte des médecins généralistes. Ce qui est très frappant, c'est le petit point de la région parisienne. Et alors, tout ce qui est autour de la région parisienne, il y a une vingtaine au moins de départements où c'est le désert, pas total, mais presque.
C'est là où la densité de médecins généralistes par habitant va être la plus faible de France. Et donc, on est en grande partie sur le type de territoire ruraux que décrivait Monsieur Desjardins à l'instant. Et donc, tout ça nous dit deux choses. D'abord, les médecins sont des Français comme les autres. Et donc,
ils aiment répondent, bien aller à la mer.
Ils répondent, à Vannes, je pense qu'il n'y a pas de désert médical à Vannes. Ils répondent aux mêmes aspirations que les Français. Donc, ces territoires qui sont moins attractifs attirent moins ou retiennent moins les médecins. Et puis, deuxième élément, parmi les facteurs qui vont contribuer à faire qu'on va décider de s'installer à tel ou tel endroit, on a parlé de la desserte ferroviaire, on a parlé des services publics, mais la présence de médecins est aussi quelque chose qu'on va très fortement regarder. Et donc, ces phénomènes n'ont fait que s'amplifier. D'où, c'est le sujet d'un autre téléphone sonne, la question de la liberté d'installation des médecins, qui peut-être un jour devra se poser, parce que, vu la pénurie, on a des territoires qui sont en manque gravissime aujourd'hui de professionnels de santé.
Je vous confirme que c'est un téléphone sonne qu'on a déjà fait, qu'on va sans doute refaire. Une question qui nous arrive par mail, c'est Marie. Ce sujet souligne les inégalités sociales en France. Ce sont essentiellement les cadres aisés qui peuvent se permettre de télétravailler dans leur maison tout en gardant leur emploi parisien de bureau. Les enseignants, infirmiers, emploi du médico-social ou du service n'ont eu aucunement à se poser la question d'un déménagement dans une grande maison en zone rurale. Je ne sais pas qui veut réagir. Xavier Desjardins ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a des très fortes inégalités sociales par rapport à ces déménagés. Effectivement, là, on parle des classes supérieures qui sont aisées, ou plus exactement, on parle de ceux qui, il faut un peu d'argent, mais qui ont aussi, par leur métier, la possibilité de se déplacer. Donc, effectivement, parfois, c'est une inégalité entre types de métiers. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur ceux qui n'ont plus de métier parce qu'ils sont retraités. Eux, c'est vraiment la population qui, je dirais... Alors, il y a des retraités pauvres qui ont pas de possibilité véritablement de déménager ou de changer de région, ou qui ont des liens familiaux tels que c'est pas possible, mais ils sont extrêmement nombreux à déménager. Et en fait, les retraités, les mouvements qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le périurbain et le littoral, ils le font encore plus. que les autres. C'est-à-dire, ils accentuent les dynamiques parce qu'eux ne sont pas tenus par l'emploi. Donc, on voit bien que là, c'est, je dirais, la France des retraités, c'est la France que vous présentez en extrême, d'une certaine manière, avec les dynamiques. Et pour l'Île-de-France, par exemple, c'est aussi la région que les retraités fuient. En Île-de-France, il y a 15% des habitants qui sont retraités. La moyenne dans les autres régions françaises, c'est 24%. La différence est énorme. Si la région parisienne gardait ses retraités, il y aurait 1 million d'habitants en plus. Voilà. Donc on voit que là, c'est quand même un effet considérable qui montre bien qu'effectivement, ceux qui déménagent sont ceux qui peuvent.
Et il y a Isabelle sur WhatsApp qui nous dit « En Île-de-France, l'éloignement hors du périmètre du Grand Paris n'est pas suivi par l'adaptation des services publics, en particulier de transport. » Isabelle Cabla-Langlois, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, effectivement, certains partent.
Alors, il y a un certain nombre de projets, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, de développement de transport, le Grand Paris Express, qui vise quand même à desservir un peu mieux un ensemble de zones et de permettre plus facilement de venir travailler, même quand on est dans les centres urbains, même si on est un peu éloigné. Il y a également des projets dans d'autres provinces. Moi, je voudrais rebondir peut-être sur le sujet du télétravail différencié selon les catégories socio-professionnelles, parce que c'est des choses qu'on mesure effectivement avec... Alors, on avait mené une enquête en mars 2022, on s'était appuyé sur l'enquête emploi, et on voyait que effectivement, les cadres sont plus de 50% à télétravailler, alors que le télétravail pour les ouvriers, c'est quasiment inexistant. C'est intéressant de voir l'évolution incroyable qu'a créé le Covid à cet égard. Si on regarde 2017, c'est il y a moins de 10 ans, selon une enquête de la DARES, seulement 3% des salariés pratiquaient le télétravail au moins un jour par semaine. En 2021, on est à 22% et encore plus aujourd'hui.
Donc c'est une vraie révolution.
Une vraie révolution.
À propos des professions qui ont du mal à bouger, Jérôme Fourquet, dans votre note, vous arrêtez sur le cas des professeurs et du fameux barème qui permet d'obtenir une mutation. Et alors là, c'est spectaculaire. 22 points nécessaires pour aller dans l'Aisne, dans l'Oise, dans l'Allier. Pour aller en Vendée, près de 800 points.
Et pour aller dans le Morbihan, on en parlait tout à l'heure, 1163 points.
Tout est dit.
Voilà. Et donc, les goûts immobiliers sont les mêmes chez les enseignants, chez les retraités, aisés, chez les cadres. Et tout le monde aspire à pouvoir habiter ou loger sa famille dans ce qu'on pourrait appeler la France triple A, celle qui fait rêver, celle qui est au bord de mer, celle des beaux espaces ruraux. Et il y a une espèce de lutte des places qui s'opère de manière souterraine, mais au quotidien. Alors, attention, parmi les ménages classe moyenne de la fonction publique, par exemple, qui ont accès au télétravail, il y en a, eux ne vont pas faire le grand saut entre la grande métropole et le bord de mer, parce qu'effectivement, en termes de pouvoir d'achat immobilier, ils ne peuvent pas se le permettre. Par contre, ils sont assez bien représentés dans ceux qui vont faire le petit pas de côté qui va les éloigner du cœur de la métropole pour avoir peut-être un chez-soi un peu plus grand.
Lutte des places, vous disiez, j'ajoute lutte des classes. Alors, je vous dis ça parce que ça nous arrive par mail. J'ai 12 ans, j'habite en HLM, j'ai pas réussi à convaincre mes parents à déménager dans une maison avec près d'une rivière. Ça fait référence à notre toute première intervention. Catherine est à Saint-Nazaire. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. En vous écoutant parler de la période Covid et du marché de l'immobilier qui engendre une vraie fracture, m'est venue l'idée d'envisager, peut-être, c'est ma question, pourquoi pas envisager un autre type d'habitat, un type d'habitat qui prendrait peut-être moins de place, qui serait un peu plus dans la mutualisation, qui serait moins vorace au niveau de l'énergie, et pourquoi pas aller vers un type d'habitat léger.
Eh ben, c'est une bonne question. Merci, Catherine. J'ajoute Mathilde aussi sur l'appli qui nous dit « Nous avons fait un déménagement dérèglement climatique. Nous sommes passés avec mon conjoint de Lyon qui devenait une fournaise l'été à Rennes, la Bretagne, pour un peu plus de frais. Est-ce que vous avez des données également sur ce type de déménagement et puis sur l'habitat léger ?» Alors, je ne sais pas, Jérôme Fourquet, on a des indices ou pas sur ces deux questions ?
Alors, sur l'habitat léger, je ne sais pas. En revanche, on parlait des faits de tendance et de mode. Ce qu'on voit très clairement, c'est que... Le littoral azurien, par exemple, qui pendant très longtemps était en haut de l'affiche, aujourd'hui, en termes de désirabilité, il est très fortement concurrencé par le littoral atlantique, notamment par du fait des effets climatiques.
Bon, et donc ça Manche pas encore. Hein. Mais si je regarde bien.
Mais il faut, c'est là où il faut investir. Là, c'est là où il faut investir. Avec plus de degrés, Granville et autres, ça va devenir magnifique. C'est déjà bien, hein, mais ça va devenir magnifique. Et regardez la Bretagne Nord aussi. Hein.
Xavier Desjardins.
Oui, je voulais dire, l'auditrice posait une question. En gros, de ces mouvements de population, est-ce qu'ils sont compatibles avec des enjeux écologiques, à part la question. Bah, là, il y a quand même quelque chose, c'est là où le bât blesse, c'est que quand même, globalement, non. On parlait du train, mais quand même, globalement, ces gens qui se desserrent, qui habitent dans les zones rurales, etc., c'est quand même évidemment la voiture qui est le principal connecteur à l'emploi. C'est plus de 90% des kilomètres qui sont parcourus par les Français sont en voiture. Donc là, ça pose une question. Et puis aussi la question de tous ces mouvements-là, en fait, quand même, entraînent une forme d'étalement résidentiel et d'étalement urbain qui pose tout un certain nombre de problèmes, de
alors
respect
qu'on
des espaces
zéro
agricoles,
artificialisation,
de biodiversité. Et on voit bien que là, effectivement, je dirais, nos modes de vie sont un petit peu contradictoires avec certaines de nos ambitions écologiques. Et ça va être un sujet brûlant des années à venir.
Jérôme Fourquet, vous avez noté d'ailleurs du nouveau à ce sujet au niveau des ventes de parcelles.
Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas forcément d'informations sur l'habitat plus léger. Peut-être on pense notamment en construction bois. Mais là encore, si le produit est de qualité et qu'il est abordable, je pense qu'il y a une partie de la population qui est sensible à l'argument écologique qui peut se laisser tenter. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans les premières couronnes urbaines, qui sont donc celles qui ont été les plus précocement urbanisées, à l'époque, le foncier ne coûtait pas trop cher, donc on plantait une maison sur une grande parcelle, et on arrive aujourd'hui à un moment de l'histoire où les premiers occupants de ces lotissements sont à un âge un peu avancé, donc ils partent en maison de retraite, ou parfois certains décèdent, et donc ce qu'on voit se développer beaucoup, c'est le phénomène de division des parcelles, qui permet dans une commune où il n'y a plus de terrain à bâtir, eh bien de reconstruire et de densifier, pas forcément en bois, mais de densifier en faisant de nouvelles constructions, en mettant donc deux maisons là où il n'y en avait qu'une historiquement.
Voilà, donc la question du logement, du terrain est une question essentielle. La question du transport aussi, et ça va être le dernier appel que nous allons prendre. Bonsoir Audrey.
Oui, bonsoir.
En Ardèche, problème de transport.
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis dans la région d'Annonay. J'habite d'un côté, on va dire, globalement, et je travaille de l'autre côté d'Annonay. Je me suis renseignée, alors mon travail, je l'adore, ma maison aussi, et je me suis renseignée pour prendre le bus. Il me faut deux voitures pour prendre le bus pour aller travailler, c'est-à-dire une voiture pour aller de chez moi au premier arrêt qui est à quelques kilomètres. Puis ensuite, par manque de correspondance, il faudrait que j'ai une deuxième voiture à Annonay pour aller travailler.
Eh ben voilà.
Voilà. Et en Ardèche, ben, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul département français qui n'a pas de transport de train voyageurs.
Ça a été le premier département à supprimer les trains voyageurs. Il y a vaguement un essai de les faire revenir le long du Rhône, mais c'est pas évident du tout. Merci beaucoup Audrey pour ce témoignage. Vous vouliez réagir peut-être Xavier Desjardins à ce qu'elle nous disait Audrey?
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, d'une certaine manière, ces mouvements-là font que les gens ont des vies de plus en des lieux multiples, quoi. Lieu d'emploi, lieu de vie, et puis parfois multi-résidence, etc. Donc tout ça entraîne effectivement des déplacements de plus en plus longs. Et ce qu'on observe, c'est que, évidemment, les Parisiens sont ceux qui ont les déplacements domicile-travail les plus longs tous les jours, mais que ça reste à un niveau élevé, mais stable. Et là où le temps passé et les kilomètres parcourus augmentent le plus vite, c'est dans les zones rurales et dans le périurbain. Parce qu'effectivement, c'est ces mouvements qu'évoquait cette auditrice qui entraîne aussi certaines quand même complexités de vie dans ces zones rurales. Beaucoup de gens ont dit tout le bonheur qu'ils avaient à y vivre, qui est tout à fait légitime et je le souhaite pour eux. Mais effectivement, ça fait partie d'une des difficultés fortes de ces espaces-là.
Des choses auxquelles il faut réfléchir, notamment quand on quitte la région parisienne, Isabelle Cabala-Langlois,
oui.
Au problème des transports.
Effectivement.
Métro boulot dodo fini, mais si c'est auto.
Oui, d'autant que les Parisiens ont pris l'habitude d'avoir de moins en moins de voitures, et il n'est pas si clair qu'en repartant, ils aient tellement envie de repartir dans des endroits où ils vont avoir besoin de nouveau de la voiture. Il y a un chiffre que je voudrais donner sur les Franciliens qui quittent l'Île-de-France, c'est qu'en moyenne, en termes de revenus, ils ont des revenus supérieurs à ceux des résidents du même âge, de 15% supérieurs. Cela, c'est un élément intéressant pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau des concurrences dont on a parlé tout à l'heure, hein, pour y revenir,
bien sûr,
en matière de logement.
Bien sûr, alors on a beaucoup, l'émission va se terminer, on a beaucoup parlé de ceux qui ont déménagé, on n'a pas eu le temps de parler de ceux qui ont acheté des résidences secondaires. Jérôme Fourquet, la carte n'est pas forcément la même
Alors beaucoup de choses ont été achetées. Partout en province. Maintenant, il faut voir si les gens y restent et s'il ne va pas y avoir un effet de retour ou de revente par la suite. Mais dans les zones qui sont les plus attractives, le marché va rester très tendu.
Voilà, une affaire à suivre, comme on dit. On refera des téléphones sonnent. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Jérôme Fourquet, votre dernier livre, c'est La France d'après, tableau politique. C'est au seuil. Xavier Desjardins, La révolution obligée à la rue édition. Merci à tous. Juste après les infos de 20h, il y a une soirée spéciale qui vous attend en direct du printemps de Bourges avec Laurent Goumard. Ce sera juste après les petits bateaux de Camille Cronier.
Bonjour. Je m'appelle Mika, j'ai 5 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi les papillons sont-ils beaux. Merci, au revoir.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle ? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy,